franceinter.fr.
Vous écoutez France Inter, vous avez bien raison, il est 19h. Le journal vous est présenté par Yves Decamp. Bonsoir Yves.
Bonsoir. Des policiers municipaux non armés à l'école. L'expérience sera tentée à Nice à la demande du maire Christian Estrosi. Le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer est d'accord. Un nouvel épisode dans le feuilleton tapis dans l'affaire de l'arbitrage de son litige avec le Crédit Lyonnais. Le parquet de Paris a ouvert une information judiciaire contre X pour possible escroquerie liée au jugement. L'arrestation d'Alexeï Navalny à Moscou, le principal opposant à Vladimir Poutine, déjà détenu 3 fois, avait appelé ses partisans à manifester dans tout le pays sans autorisation. Dans ce journal également, la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui ne regrette pas l'exposition universelle. La mort d'un illustre inconnu, Ingvar Kamprad, qui avait fait de son entreprise Ikea un véritable empire. La mort également d'un grand éditeur, Jean-Claude Lattès. Il avait notamment lancé la carrière de Jean d'Ormesson. La Seine, quasiment à son pic de crue à Paris. La situation se stabilise en amont. Pas de pluie, mais toujours beaucoup de gris demain dans les 3/4 du pays, nous dira Jean-Michel Golinski. En sport, ils n'ont peut-être pas tout perdu. Les Bleus, bien partis pour être médaillés de bronze à l'Euro de hand. Ils mènent actuellement face aux Danois. Le phénomène Federer en tennis, le Suisse de 36 ans, remporte à Melbourne son 20e titre du Grand Chelem. En Ligue 1 de football, victoire de Lille sur Strasbourg 2-1. Lyon coule à Bordeaux et laisse le champ libre à Marseille et Monaco. En rugby, le Stade français prend l'eau, ces deux circonstances, battu à domicile par la section paloise 40-5. Et puis à l'instant, victoire de Montpellier à Clermont 30-29. Les champions de France quasiment hors course pour la phase finale. Le journal des sports avec Cécilia Arbonat dans un instant. Il n'y aura plus que 4 épreuves au bac contre 10 à 15 actuellement. C'est quasi certain pour Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, qui l'a dit à midi sur France Inter. Son projet de réforme sera présenté au Conseil des ministres du 14 février. Et d'ici là, des choses peuvent se discuter, mais l'ossature, ce sera bien ce que contenait déjà le rapport Mathiot, remis au ministre, une ossature de 4 épreuves et le reste en contrôle continu. Quant à l'expérimentation annoncée par le maire de Nice, Christian Estrosi, qui veut mettre des policiers municipaux non armés dans les écoles, eh bien pourquoi pas, répond Jean-Michel Blanquer, qui se dit favorable à l'idée.
C'est une expérimentation qui commencerait prochainement et pour laquelle j'ai donné mon feu vert en tant qu'expérimentation. Vous avez dit à quel point c'était une méthode que je trouvais bonne, c'est-à-dire ça permet de tester des choses à petite échelle et de voir ce que cela donne. J'ai demandé à ce que ce soit non armé. Et une des choses qui m'ont paru les plus intéressantes, c'est aussi la relation entre la police et les enfants. Parce que le policier non armé à l'intérieur de l'école, c'est quelqu'un qui, en fait, va être au quotidien avec les enfants et va en réalité s'intégrer dans
en uniforme.
Dans et en uniforme de police municipale. Encore une fois, on va voir ce que ça donne. Hein. Si ça se trouve, dans un an, on fera le constat que c'était pas une bonne idée. Mais peut-être que ça peut être une très bonne idée, y compris pour relation entre la police et la population qui peut passer par l'école. Et puis, on le sait tous, Nice est passé par un épisode dramatique. Et donc, il y a, c'est vrai, une sensibilité particulière qu'il faut respecter. On va regarder ça au cours des prochains mois. C'est à petite échelle, mais ça m'a paru intéressant. Et quand Christian Estrosi a proposé cela, je ne voyais pas de raison de ne pas essayer.
Jean-Michel Blanquer avec Ali Badou dans Questions politiques à midi sur France Inter. Au contraire de ce qu'il avance, cette expérimentation niçoise qu'avait rejetée la précédente ministre, Najat Vallaud-Belkacem, suscite bien des critiques des syndicats enseignants et de la Fédération des parents d'élèves, FCPE notamment, qui dénonce une proposition démagogique jusqu'au syndicat de défense des policiers municipaux et son président, Cédric Michel, qui juge cette mesure inutile et d'ailleurs dangereuse, il l'a dit à Maxime Fayol.
L'école, à mon avis, c'est un sanctuaire où le policier municipal n'a pas sa place. Et un policier municipal doit être armé pour assurer sa défense et la défense d'autrui. Si on place un policier municipal dans une école non armée, cela ne sert à rien. S'il y a une attaque terroriste, il est évident que le ou les terroristes cibleront en premier et neutraliseront le policier municipal. On place le policier municipal en situation de cible et de cible facile puisque lui n'aurait donc aucun moyen de riposte ni aucun moyen de défense face à une attaque terroriste.
Réponse de la mairie de Nice à cette réponse des policiers municipaux. Qu'on attende, dit-elle, le résultat de l'expérimentation avant de juger. Un nouvel épisode de l'affaire Tapie, révélé par Mediapart ce dimanche, dans l'affaire de l'arbitrage de son litige avec le Crédit Lyonnais sur la revente d'Adidas. On apprend aujourd'hui qu'un juge d'instruction enquête sur une possible escroquerie qui serait liée au jugement prononcé par le tribunal de commerce. Une information judiciaire contre X a été ouverte le 30 août par le parquet de Paris, Charlotte Piret.
Oui, c'est un peu l'escroquerie dans l'escroquerie dont est soupçonné Bernard Tapie, condamné pour l'arbitrage frauduleux dans l'affaire du Crédit Lyonnais à rembourser 404 millions d'euros à l'État. Il s'était vu offrir un répit de 6 ans par le tribunal de commerce de Paris en juin dernier. La décision avait alors créé la surprise, l'indignation même des avocats de la puissance publique, la colère du parquet qui avait alors décidé de faire appel de cette décision. Mais pas seulement, et c'est ce qu'on apprend aujourd'hui. Une information judiciaire a en plus été ouverte moins de 2 mois après cette décision. Information judiciaire pour escroquerie au jugement, car il apparaît que cette décision du tribunal de commerce de Paris qui offre à Bernard Tapie la chance inespérée de ne pas voir saisir son hôtel particulier au cœur de la capitale ou sa villa du Var pour rembourser ses dettes. Cette décision n'aurait été prise que sur simple foi d'une expertise financière, non pas indépendante, mais commanditée par Bernard Tapie lui-même. Rapport qui, de plus, aurait faussé la donne sur le bilan financier de la Provence, le quotidien régional dont l'homme d'affaires est l'actionnaire majoritaire. Bref, on serait loin d'un jugement impartial, dont, hasard du calendrier, l'appel doit être examiné ce mardi.
Pas de problème pour Gérald Darmanin du point de vue de la garde des Sceaux, Nicole Belloubet. Le ministre des Comptes Publics, qui fait l'objet d'une plainte pour viol, n'étant pas mis en examen, il peut rester au gouvernement. Gérald Darmanin, accusé par une ancienne call girl d'avoir monnayé son intervention quand il était chargé de mission à l'UMP contre des faveurs sexuelles, dénonce par le biais de son avocat une calomnie. On ne peut pas impunément mettre les ministres en accusation pour des raisons qui ne sont pas claires, a poursuivi Nicole Belloubet. La ministre de la justice, qui par ailleurs prévient les surveillants de prison que ses propositions de sortie de crise sont définitives. Le syndicat majoritaire UFAP-UNSA a pris acte et les a signés, dit-elle. Donc, ça s'arrête là. Ce dimanche, une vingtaine de prisons restaient touchées par la mobilisation des surveillants qui demandent entre autres une revalorisation de leurs indemnités. En bref, un homme tué par balle et 2 autres blessés à Toulon la nuit dernière. Probablement un règlement de compte lié au trafic de drogue. Des gardes à vue sont toujours en cours. À Montreuil, en banlieue de Paris, un homme est mort après avoir été roué de coups par une trentaine de personnes pour des raisons qui restent à déterminer. En apparence, une simple altercation au départ. Et puis à Chamonix, 2 jeunes Anglais se sont tués en faisant du hors-piste à plus de 2000 mètres dans un couloir accessible par les remontées mécaniques. Ils ont sauté des barres rocheuses et ils sont morts sur le coup. Quand Anne Hidalgo dit ne pas regretter l'exposition universelle, c'est inattendu, mais la maire de Paris a été très claire. En réaction à la décision annoncée par le Premier ministre la semaine dernière, le retrait de la candidature française pour l'expo universelle de 2025, elle l'a dit à TV5 Monde et à RFI, elle approuve.
Je ne regrette pas. Pour tout vous dire, je me suis engagée dans l'expo universelle parce que ça me paraissait important, bien sûr, d'être solidaire. Mais je pense qu'il faut aussi être raisonnable. Je suis plutôt d'accord avec la décision qui a été prise par le gouvernement.
Soulagée?
Non, pas soulagée. Paris était très peu concernée, en fait, par l'expo, puisque elle se déroulait pas tout près de Paris. D'ailleurs, c'est étonnant parce que ceux qui ont à choisir sur les expos universelles nous avaient plutôt demandé de faire différemment.
Voilà, un désaveu à demi-mot des organisateurs de cette expo qui se serait située sur le plateau de Saclay dans l'Essonne, un peu trop loin de Paris donc pour Anne Hidalgo. À Moscou, c'est presque une habitude. L'opposant préféré de Vladimir Poutine, Alexei Navalny, a de nouveau été emmené par la police après avoir appelé ses partisans à manifester dans tout le pays. Manifestation non autorisée auxquelles auront quand même participé plusieurs milliers de personnes descendues dans les rues, notamment à Moscou, pour dénoncer l'autoritarisme du régime et la supercherie de la prochaine présidentielle à Moscou. Claude Brouillot.
Moins nombreux qu'au printemps dernier, mais toujours aussi déterminés. Les sympathisants d'Alexei Navalny dénoncent encore la corruption du pouvoir, mais en plus, cette fois, ils réclament carrément le départ de Vladimir Poutine. Comme en 2017, Alexei Navalny a donc été arrêté pour avoir organisé à Moscou sa manifestation en un lieu interdit, sur une avenue principale du centre-ville, à moins 1 kilomètre du Kremlin. Une centaine d'agglomérations russes étaient le théâtre de ces premières démonstrations de l'opposition hors système depuis le début de la campagne électorale. Toute la question est maintenant de savoir savoir en l'absence d'Alexeï Navalny, qui risque une nouvelle peine d'emprisonnement si ces rassemblements vont se poursuivre, toujours pour rappeler les Russes à boycotter la présidentielle du 18 mars. La difficulté sera double pour le collectif anticorruption, agir sans son leader et maintenir la pression sur le pouvoir, alors que plusieurs de ses bureaux dans la capitale et en région ont fait l'objet d'interventions policières. Moscou, Claude Bruyau, France Inter.
Au Yémen, le siège du gouvernement aux mains des rebelles à Aden, dans le sud, la deuxième ville du pays, où le président Hadi avait établi sa capitale provisoire. Le président yéménite qui a été chassé par les séparatistes houthis, soutenu par l'Iran, et qui s'est réfugié en Arabie Saoudite. La guerre du Yémen, depuis bientôt 3 ans, a fait près de 10 000 morts. Il s'appelait Ingvar Kamprad et son entreprise Ingvar Kamprad Elmtarid Agunarid, plus connu sous le nom d'IKEA, une entreprise qu'il avait fondée à l'âge de 17 ans et qui est devenu aujourd'hui dans le monde le symbole des meubles en kit, qui n'a pas sa bibliothèque Billy, dont on dit qu'il s'en vante une toutes les 10 secondes. Ingvar Kamprad est mort hier à 91 ans. Si son parcours n'a pas toujours été exemplaire, son pays, la Suède, peut lui être reconnaissant, Anne-Françoise Hiver.
Disparition d'une icône, du plus grand entrepreneur qu'ait connu le royaume. Aucun superlatif n'est de trop pour qualifier celui qui, avec ses magasins jaunes et bleus où le monde entier pouvait s'acheter des meubles à petit prix au patronyme scandinave, a placé la Suède sur la carte du monde. Né en 1926 à Älmhult, au sud du pays, Ingvar Kamprad a fondé IKEA en 1943. En quelques décennies, sa petite entreprise est devenue un empire mondial, faisant de lui un des hommes les plus riches du monde. Entrepreneur de génie, Ingvar Kamprad entretient le mythe, celui d'un homme un peu benêt qui a du mal à se souvenir du nom de ses produits. Pingre, aux limites de l'absurde, en voyage d'affaires, il préfère dormir dans sa vieille Volvo plutôt que de payer une chambre d'hôtel. Au fil des ans, le mythe s'étiole. Des journalistes révèlent des montages financiers qui permettent au groupe d'éviter de payer des millions d'euros d'impôts. Un livre fait état de ses sympathies nazies pendant la Seconde Guerre mondiale. Chaque fois, Ingvar Kamprad fait pénitence et les Suédois semblent lui pardonner. Aujourd'hui, une question intéresse tout particulièrement les médias scandinaves, celle de sa succession qu'il préparait, semble-t-il, depuis 1976, mais qui n'inclurait aucun de ses 3 fils.
Autre disparition annoncée ce dimanche, l'un des grands découvreurs des écrivains populaires de notre temps, comme a dit le président de la République en rendant hommage à l'éditeur Jean-Claude Lattès, mort hier à 76 ans et qui avait, c'est vrai, des goûts très éclectiques. Avant de vendre sa maison d'édition au groupe Hachette il y a longtemps, il avait donné sa chance à de jeunes auteurs qui ont ensuite fait carrière, Joseph Joffo, Amine Malouf, Jean d'Ormesson, dont il avait publié le livre qu'il a vraiment lancé, Mon dernier rêve sera pour vous, et puis aussi Irène Frein, dont le Nabat en 82 avait connu un grand succès.
Je l'ai rencontré à travers Nicole Lattès, son épouse, qui, et c'était un couple d'édition extraordinaire. C'était des êtres qui avaient le don de rendre possible ce qui paraissait impossible. C'est d'ailleurs ce qu'ils m'ont appris. J'avais fait l'impression d'un être totalement solaire et qui précisément considérait que toutes les barrières pouvaient être abattues. Il avait raison. L'un et l'autre, et peut-être plus particulièrement Jean-Claude, avait un regard sur les livres qui étaient celui de l'édition américaine et de la culture américaine dans le bon sens du terme. C'est-à-dire, on en rêve et on le fait.
La mort de Jean-Claude Lattès intervient un mois après la disparition de 2 autres éditeurs, Manuel de Fallois et Polo Tchaikovsky-Laurence, tous 2 décédés début janvier. Elles auront fait le plein, c'est le cas de le dire. Les crues de la Seine à Paris sont toujours un beau spectacle dont profitent les promeneurs. Et cet après-midi encore, ils ont été nombreux sur les ponts de Paris, l'appareil photo à la main. Au plus haut, ce soir, la Seine devrait frôler les 6 mètres avant d'entamer sa décrue de façon très progressive, comme on peut l'observer déjà en aval de Paris, en Seine-et-Marne, où l'attente commence à peser lourd, notamment pour les commerçants, dont certains n'ont pas été livrés depuis plusieurs jours. C'est le cas à Condé-Sainte-Libière, petite commune de 1400 habitants. Un reportage d'Evan Le Bastard.
Ahmed Aïdou gère la seule supérette du village et pour faire ses courses là-bas, un seul moyen, la barque.
On est dégarni en fruits et légumes, on n'a pratiquement plus rien. Produits frais, pareil, en viande, en yaourt, en charcuterie. On a dû retirer les 3/4. Pour l'instant, le magasin est bien dégarni.
Le dernier approvisionnement de sa supérette date de la semaine dernière. Une semaine catastrophe que le commerçant a peur de payer encore longtemps.
On est un peu dans le rouge niveau bancaire. Quand on a un trou comme ça d'une semaine à une dizaine de jours sans recette, alors que les prélèvements, les charges, etc. continuent, la balance penche du mauvais côté. Donc pour remonter la pente, ça va être assez long.
Le manque à gagner serait entre 5 000 et 10 000 euros selon le gérant. Et pour un remboursement par son assurance, il va falloir attendre.
Les contraintes des assurances, c'est assez compliqué à ce qu'ils remontent sur plusieurs années par rapport aux recettes quotidiennes pour évaluer la perte financière. Les comptes de résultats sur plusieurs années, c'est assez contraignant.
Ahmed Aïdouche a demandé une livraison d'urgence pour demain. Mais la décrue plus lente que prévue ne met pas le commerçant en confiance. Il pourrait attendre encore jusqu'à mercredi.
En aval de Paris, la Seine devrait continuer à monter encore demain. Lundi, il faudra bien une semaine pour retrouver un niveau normal. Dans Paris intramuros, le RER C restera fermé jusqu'au 5 février minimum. La météo, c'est dans un instant. D'abord la route.
Point route avec Sarenza. Découvrez des chaussures stylées pour tous les goûts en prenant la direction sarenza.com.
Sarenza.com.
Laurent Bord, un accident en Isère.
Oui, un véhicule est accidenté sur l'A43 entre l'Italie et Lyon, en direction de Lyon, après la sortie 9, la Tour du Pin. C'est au niveau de Saint-Jean-de-Soudun. La voie de droite et la bande d'arrêt d'urgence sont neutralisées. En conséquence, il y a 10 km de bouchons dans ce secteur. C'est très difficile puisque vous mettez 1h30 pour parcourir ces 10 km. Et puis, en région parisienne, vous venez d'en parler, la ligne C du RER. Les stations desservant Paris intramuros vont rester fermées jusqu'au 5 février.
Laurent Bord, PC Mobilité de Radio France. Le temps.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Via Santé, la mutuelle qui aide ses adhérents à prendre soin de leur santé. Et vous, comment ça va?
11 départements en vigilance orange inondation en Ile-de-France principalement. Demain, pas de pluie mais beaucoup de gris, Jean-Michel Golinski.
Dans la continuité, demain, c'est la poursuite d'un temps très calme et souvent uniformément gris du nord de la Loire en allant vers la Belgique, sur le Poitou-Charentes, le centre, la Bourgogne et la Franche-Comté, avec parfois quelques gouttes près des frontières du nord, et un vent modéré près de la Manche, offrant la possibilité de trouer mais uniquement sur le littoral. Plus au sud, attendez-vous à dégeler vers 0-2 degrés en fin de nuit des Pyrénées au Massif central et à des brouillards assez répandus aux premières heures dans le sud-ouest et dans le Val-de-Saône. Leur évolution plus ou moins rapide laissera place au soleil comme sur le reste de la moitié sud. Les températures maximales vont se maintenir à un niveau supérieur aux moyennes de saison avec 14 à 16 degrés des bords de la Méditerranée à la Corse, 14 du Pays Basque à la Bigorre et généralement 11 à 13 degrés sur le reste du pays.
19h17, le sport. Avec vous, Cécilia Arbona, bonsoir.
Bonsoir.
Direction Zagreb pour commencer, en Croatie bien sûr, avec le match du rachat pour les experts.
Les handballeurs français vexés comme des poux d'avoir été battus par les Espagnols vendredi soir en demi-finale du championnat d'Europe veulent effacer ce qu'ils vivent comme une humiliation après un tournoi flamboyant. L'équipe tricolore affronte en ce moment le Danemark avec la rage de ramener la médaille de bronze à la maison. Ils mènent pour l'instant mais c'est serré, Xavier Monferrand.
Oui, c'est toujours très serré, Cécilia, mais quand même un avantage pour les experts de 3 buts, alors qu'il reste un peu moins d'un quart d'heure dans ce match. Les experts, ça fait un bon moment depuis la mi-temps déjà, hein, qui sont devant, puisqu'on les avait quittés à la mi-temps sur un avantage de plus 3. Et bien, ils ont gardé cet avantage sur le premier quart d'heure de cette seconde période. Vous l'avez dit, les experts vexés, humiliés par cette défaite. Et à nouveau un but par Quentin Mahé à l'instant même, 26 à 22 maintenant pour les experts. Vous l'avez dit, vexés par cette défaite, qui ne sont pas habitués à perdre en demi-finale. Eh bien, ils ont envie de cette médaille de bronze, clairement, de retrouver le sourire, ça se sent. Et ils mènent donc de 4 buts après 17 minutes de jeu dans cette seconde période.
Merci Xavier, n'hésitez pas à vous manifester au cours de ce journal si les experts se font remonter, voire doubler. La finale de l'Euro de Hand, ce sera à 20h30 entre la Suède et l'Espagne.
La Ligue 1 de football avec 3 affiches de la 23e journée.
Lyon recevait Strasbourg en début d'après-midi. Le LOSC a eu chaud, accroché jusque dans les toutes dernières minutes.
Lille recevait Strasbourg.
Oui, et c'est le LOSC. Donc les joueurs de Christophe Galtier ont empoché les 3 points dans le temps additionnel. Victoire 2-1 pour Lille donc. À Bordeaux, c'était le baptême du feu pour le nouvel entraîneur des Girondins, Gustavo Poyet, face à l'Olympique Lyonnais. On peut dire que la mission du coach uruguayen commence plutôt bien. Avec une victoire, 3-1, le récit de Damien Gozioso.
Difficile de dire s'il s'agit déjà d'un effet Gustavo Poyet. L'Uruguayen débute en tout cas son aventure à la tête des Girondins par une victoire précieuse, 3-1, face aux dauphins du PSG. Beaucoup plus rigoureux défensivement que ces dernières semaines, les Girondins ont opéré en contre, comme sur le premier but signé Nicolas Depréville. Puis ils ont bénéficié de deux pénaltys convertis par Malcolm et Laborde. Le but lyonnais est signé Mariano sur un corner de Nabil Fekir. Fin de série pour l'Olympique lyonnais qui restait sur une série donc de 7 victoires à l'extérieur. A l'inverse, Bordeaux regoute à la victoire à domicile 2 mois jour pour jour après son dernier succès. Avec cette victoire, les Girondins remontent à la 9e place de la Ligue 1. Lyon, de son côté, reste 2e mais se retrouve sous la menace de l'OM et Monaco qui s'affrontent ce soir. À Bordeaux, Damien Gozioso pour France Inter.
Voilà, ce soir, donc 21h, l'Olympique de Marseille recevra l'AS Monaco au Vélodrome. Dans le top 14, nouvelle désillusion pour le Stade français, balayé cet après-midi à domicile par la section paloise. Pau a inscrit 6 essais et s'impose facile, 40 points à 5. L'autre affiche de ce dimanche opposait Clermont à Montpellier. Le club de l'Hérault s'est imposé d'un petit point, 30 à 29, chez le champion de France en titre, quasiment hors course maintenant pour la phase finale. Frédéric Silva.
Aussi improbable que cela puisse paraître, Clermont, le champion de France en titre, a sans doute dit ce soir adieu aux phases finales. Battu par Montpellier 30 à 29 lors d'un match intense et haletant, les Auvergnats, pourtant animés de bonnes intentions et dominateurs en seconde période, ont craqué en fin de match sur un essai de la montagne héraultaise Nemanja Nadolo. Conséquence au classement, Clermont reste 10e à 11 points de Toulouse qui occupe la 6e et dernière place barragiste aux phases finales. L'avenir s'assombrit donc en top 14 pour Clermont, alors que Montpellier, lui, conforte sa place de leader du championnat en signant en Auvergne une performance de haut vol. À Clermont-Ferrand, Frédéric Silva pour France Inter.
Et en Pro D2, Béziers a battu Mont-de-Marsan 28 à 18.
En tennis, c'est un immense champion de 36 ans qui collectionne les titres et pourtant, comme un débutant, il s'est laissé envahir par l'émotion à l'Open d'Australie.
Il était 22h30 à Melbourne, midi et demi à Paris. Le Suisse Roger Federer a remporté son 20e titre du Grand Chelem en battant le Croate Marin Cilic en 5-7, 6-2, 6-7, 6-3, 3-6, 6-1. Roger Federer en larmes sur le podium. Il a craqué en fait au moment de remercier le public et toute son équipe. Il était encore tout chamboulé en conférence de presse.
5-7, c'est toujours physique aussi. C'était rigolo en sorte, mais pour finir, je suis content que c'est fait. Et c'est quand je suis monté sur le podium et j'ai parlé aux gens et j'ai pu remercier les gens que je voulais. C'est là que j'ai commencé à réaliser que j'avais gagné. J'ai pu quand même atteindre ce 20e incroyable, ce titre est phénoménal. Je veux dire, je suis tellement soulagé, tellement content. C'était quand même assez fou ce soir encore.
Federer, c'est peut-être le capitaine flamme du tennis. Il vient peut-être lui aussi d'une autre galaxie ou en tout cas certainement d'une autre planète, c'est ce que dit le français Henri Lecomte. Il a assisté à cette finale incroyable en Australie.
C'est un martien, il vit sur une autre planète, c'est un joueur extraordinaire, c'est un joueur qui m'épate à chaque année. Il vit sur une autre planète parce qu'il est capable de s'adapter à toute situation. On a souvent pensé que 17 c'était simplement 17 grands chelems, mais c'est déjà exceptionnel, il en fait 18, maintenant il en est à 20. Il vit dans une autre dimension et il a surtout une sérénité, une joie de vivre, un partage, une communion, une intelligence, une humilité qui est assez exceptionnelle. Et c'est quelqu'un qui aime le tennis, qui aime le sport. Il est hors norme. Peut-être qu'il veut aller avec Wimbledon à 21. Après, on verra. Je pense que c'est après qu'il va se rendre compte de ce qu'il a fait et ce qu'il est encore en train de faire.
Henri Lecomte au micro de Fabrice Abgral, envoyé spécial de France Inter à Melbourne.
Sébastien Ogier reste le roi du rallye de Monte Carlo.
Oui, le pilote Ford en tête depuis la première spéciale de jeudi soir a remporté sa 5e victoire consécutive dans cette course. Il est le premier en fait à enchaîner autant de succès sur ce parcours qu'il connaît presque les yeux fermés. Il est chez lui dans les Hautes-Alpes et que ce soit autour de Gap ou ailleurs, Ogier prévient tout le monde. Il n'a pas l'intention de laisser le moindre espace sur la route, sur le macadam à ses concurrents. Jean-Pierre Blimaud.
Sébastien Ogier a su se montrer patient, mais aussi attaqué dans les moments clés. Deux victoires le premier soir pour dominer d'entrée le classement général. Le meilleur chrono dans la première spéciale du dimanche. Dans la troisième, il porte son avance à 57 secondes. Il y en aura 58 sur l'Estonien Tanak à la fin du rallye. L'Estonien, seul rival capable de contester la victoire du Français jusqu'au dernier jour, n'a jamais eu l'occasion en fait de prendre, même provisoirement, la tête du rallye. Sébastien Ogier, talentueux ou gestionnaire, écoutez sa réponse.
J'ai un bon feeling avec ce rallye et ça m'a souvent bien réussi. Je pense que j'ai une bonne faculté à être constant, à savoir à quel moment il faut prendre des risques, à quel moment il faut pas. Une faculté à faire un petit peu moins d'erreurs que mes concurrents normalement.
C'est la cinquième victoire consécutive sur le Monte Carlo, la sixième au total si l'on ajoute une épreuve hors championnat du monde pour Sébastien Ogier. Et il n'y a pas vraiment de secret, confie son copilote Julien Ingracia.
On sait aussi que là il faut pas partir le couteau entre les dents. Il y a des fois il faut savoir enfoncer le clou. Mais globalement sur un Monte Carlo, il faut être plutôt du côté safe de la limite que de l'autre côté.
Il y a quelques mois, Sébastien Ogier ne savait pas s'il repartirait avec Ford. En s'imposant sur le Monte Carlo, le Français n'a pas attendu longtemps pour affirmer haut et fort qu'il espère bien rouler vers un sixième titre mondial. Monaco, Jean-Pierre Blimaud, France Inter.
Prochaine manche en Suède le mois prochain, puis ce sera le Tour de Corse du 5 au 8 avril.
La neige est décidément le jardin de l'Autrichien Marcel Hirscher.
Il a gagné le géant de Garmisch en Allemagne. C'est sa 55e victoire en Coupe du Monde. Il bat le record du mythique Hermann Mayer. Tous les voyants sont au vert pour Hirscher étincelle dans 15 jours en Corée du Sud pour les Jeux Olympiques. Des soucis, en revanche, et sérieux pour le Français Alexis Pinturault. Le skieur de Courchevel est 9e, venu en Bavière avec l'espoir d'en finir avec ses prestations en forme de montagne russe. Pinturault reconnaît que c'est raté. Il est inconstant et ça le mine.
Là, ça fait 3-4 courses que je prends un peu un coup derrière la tête. Là, j'ai jamais été régulier depuis le début de l'hiver. Des fois, j'arrive à gagner. Des fois, je suis 3e. Mais la course d'après, je suis 9e, 7e, 8e. D'où le doute qu'il peut y avoir. Je suis assez déçu et pas dans les meilleures dispositions psychologiquement pour aborder les Jeux.
Alors, place maintenant au JO, effectivement, pour les skieurs français. Les filles ont encore une étape à Garmisch, ce sera la semaine prochaine. Les garçons, eux, en ont terminé avec la Coupe du Monde. Jusqu'au 3 mars, en fait, tout le monde va se mettre en mode olympique. Franck Ballanger aussi, il a déjà sa combinaison.
Après les Jeux, il restera encore 3 étapes de Coupe du Monde, mais pendant un mois, le circuit s'offre une pause. Une trêve olympique pas forcément simple à gérer, sportivement ou émotionnellement. Le descendeur Adrien Théo a appris à se faire à cette parenthèse.
Exactement, ouais, c'est vraiment une parenthèse, parce que ça compte pas du tout pour le classement de la Coupe du Monde, ça compte pas pour le classement final de fin de saison, c'est un peu compliqué. Mais les Coupes du Monde, c'est bien important, mais voilà, les Jeux, ça reste les Jeux. Pour moi, en tout cas, il n'y a aucun problème. Je vais me mettre dedans avec l'état d'esprit qu'il faut et puis profiter de tout ça là-bas pour avoir encore plus d'émulation et puis faire ce qu'il faut là-bas.
À 37 ans, Johan Claret sera le doyen de l'équipe de France de ski alpin au JO de Pyeongchang et le descendeur de Tignes sait exactement à quoi s'attendre.
Il va falloir se mettre dans un mode différent, ouais, ça c'est sûr. Les JO, c'est pas une Coupe du Monde. Pour en avoir fait deux avant, tout ce qui est autour, c'est différent. Et je sais qu'il y a toujours des surprises au jeu. J'y crois, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de bien. C'est une piste qui n'est pas très difficile. Je pense qu'on va y aller, on n'aura rien à perdre, il y a tout à gagner. Donc ça va être du bonheur.
À Garmisch-Partenkirchen, Franck Ballanger, France Inter.
Et on va rester dans la montagne avec tout ce qu'elle a de plus tragique. Malheureusement, l'alpiniste française Elisabeth Revol s'en sort très bien. Elle a été secourue lors d'une mission de sauvetage très périlleuse menée sur le Nanga Parbat dans la partie pakistanaise de l'Himalaya. La Française âgée de 38 ans est hors de danger. En revanche, les recherches viennent d'être abandonnées pour retrouver son compagnon de cordée, un grimpeur polonais gravement blessé. Il souffre de gelures et de brûlures aux yeux. Il se serait réfugié dans une crevasse difficilement accessible. Victor Vasseur.
Les sauveteurs ont gravi de nuit plus de 1000 mètres de dénivelé dans la neige et sous le brouillard. Personne n'avait réalisé une telle ascension dans ces conditions. Elisabeth Revol aura passé 2 jours à moins 30 degrés et sans oxygène. Une prouesse qui n'étonne pas son ami Denis Benoît. Il est l'ancien président d'un club d'escalade où l'alpiniste drômoise vient s'entraîner.
Elisabeth est quelqu'un d'hors norme, physiquement et mentalement. Donc c'est certainement ce qui lui a permis d'être sauvée. Et de se sauver.
Elisabeth Revol est en ce moment soignée dans un hôpital pakistanais. L'alpiniste est traité par télémédecine. Les soins sont dirigés par l'urgentiste Emmanuel Cauchy, basé à Chamonix. Des images de ses blessures sont envoyées en temps réel. Le médecin détermine ensuite le traitement.
Alors, pour l'instant, ce qu'elle m'a dit, c'est qu'elle avait des gelures aux orteils.
Elle avait l'air très plutôt une euphorie peut-être post-traumatique parce qu'elle avait l'air très contente. Mais je pense qu'elle est surtout très contente d'être en vie. Voilà.
Tomek, son compagnon de corps des Polonais, ne sera pas secouru. Ce n'est plus possible, avoue un proche d'Elisabeth Revol sur Facebook. Il ne sera même pas rapatrié. Son corps restera sur les flancs de la montagne à plus de 7000 mètres d'altitude. Victor Vasseur, France Bleu de Romardèche pour France Inter.
Allez, on retourne à Zagreb pour retrouver Xavier Monferrand. Xavier, les Français sont en passe de devenir les numéros 3 d'Europe en handball.
Oui, faut l'espérer, il reste 5 minutes et les Français mènent de 3 buts face au Danemark. Ils se menaient de plus 5, mais ils sont pris un 3-0 en quelques minutes par le Danemark. Et heureusement, grâce à Nicolas Karabatic. Ouais, attention là au Danemark qui revient à 2 buts des experts. On est à 5 minutes du terme, 29-27 pour les experts dans cette petite finale.
Merci Xavier Aumont-Ferrand.
Et merci à vous Cécilia Arbona pour ce journal des sports.